Les contractions de la belle-fille de Zhang Yuanchao avaient commencé. Elle était déjà entrée dans la salle d'accouchement. Toute la famille patientait nerveusement dans la salle de pré-travail où l'on pouvait consulter sur un écran l'état de santé de la mère et du bébé. Zhang Yuanchao se sentait imprégné d'une chaleur et d'une humanité qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant, comme la rémanence de douceur d'un âge d'or ancien peu à peu corrodé par ces temps de crise toujours plus sombres. Yang Jinwen entra dans la pièce. Zhang Yuanchao pensa aussitôt qu'il voulait profiter de l'occasion pour se réconcilier, mais il vit très vite dans son regard qu'il n'en était rien. Sans même le saluer, Yang Jinwen le tira hors de la pièce et l'entraîna dans le couloir de l'hôpital. « Tu as vraiment souscrit au fonds d'évasionnisme ?» demanda Yang Jinwen. Zhang Yuanchao tourna la tête, faisant fi de sa présence, action dont le sens était manifeste. « Qu'est-ce que ça peut bien te faire ?»« Lis, ça date de ce matin !» dit Yang Jinwen, puis il lui donna un journal. Le titre de la une tomba comme un voile noir sur ses yeux. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 117 déclarant l'évasionnisme illégal. Zhang Yuanchao lut attentivement la suite de l'article. L'Assemblée générale de l'ONU a voté massivement en faveur d'une résolution déclarant que l'évasionnisme constituait une violation du droit international. Il a par conséquent été décidé de condamner dans les termes les plus forts la division et l'instabilité causées dans les sociétés humaines par la doctrine évasionniste. En vertu du droit international, l'évasionnisme est désormais équivalent à un crime contre l'humanité. Un appel a été lancé aux différents États membres pour légiférer dès que possible afin d'enrayer ce fléau. Par l'intermédiaire de son porte-parole, la délégation chinoise a réitéré la position du gouvernement sur l'évasionnisme, en déclarant que la Chine soutenait fermement la résolution 117 des Nations unies. Elle a communiqué l'engagement du gouvernement chinois à proposer très rapidement une nouvelle législation capable de prendre des mesures efficaces contre la propagation de cette idéologie. Le porte-parole a conclu en rappelant qu'il fallait se réjouir de l'unité et de la solidarité de la communauté internationale en cette période de crise et veiller à préserver le principe désormais internationalement reconnu de droit égal à la survie. La Terre est la maison commune de l'humanité, nous ne devons pas l'abandonner. Mais pourquoi ? Balbutia Lao Chang en regardant Yang Jinwen. Tu ne trouves pas ça assez clair ? Il suffit d'y penser un peu et tu comprendras que toutes les fuites dans le cosmos seront éternellement vouées à l'échec. Qui partirait et qui resterait? Voilà tout le problème. Ce n'est pas une inégalité ordinaire, c'est une question de droit à la survie. Peu importe qui part, les élites, les riches ou les gens ordinaires. À partir du moment où il y en a qui partent et d'autres qui restent, cela signifie l'effondrement des valeurs fondamentales de l'humanité et de sa ligne de fond morale. Les droits de l'homme et l'égalité devant la vie sont profondément enracinés dans le cœur humain. L'inégalité devant la survie est la plus grande des inégalités. Les individus ou les nations qu'on obligerait à rester ne pourront pas attendre patiemment la mort en voyant leurs congénères emprunter le chemin de la survie. Deux camps s'affronteraient de plus en plus violemment et plongeraient le monde dans le chaos, et personne ne pourrait plus sortir. La résolution des Nations Unies était la décision la plus sage à prendre. Lao Chang, dis-moi, combien as-tu dépensé ? Zhang Yuanchao s'empressa de sortir son téléphone portable et de passer un coup de fil à Xi Xiaoming, mais ce dernier avait éteint son appareil. Les jambes de Lao Chang flageolèrent. Il s'appuya contre le mur et glissa jusqu'à se retrouver le cul par terre. Il avait déboursé 400 000 yuan. Porte plainte dès que possible auprès de la police. Heureusement, ce Xi ignore que Lao Miao s'est déjà renseigné sur le service dans lequel travaille son père. Cet escroc n'ira pas loin. Zhang Yuanchao s'était assis dans son coin en soupirant et en secouant la tête. Même si on peut le retrouver, on ne sait pas ce qu'il a pu faire de l'argent. Et qu'est-ce que je vais faire pour mes descendants ? Des pleurs se firent entendre. La sage-femme appela. Chambre 19, c'est un garçon. Zhang Yuanchao sauta brusquement sur ses pieds et courut dans la salle d'accouchement. À cet instant précis, le reste n'avait plus aucune importance. Pendant ces 30 minutes où Lao Chang avait attendu, 10 000 autres nourrissons étaient nés sur Terre. Si leurs pleurs s'étaient rassemblés, ils auraient composé une somptueuse chorale. Derrière eux, l'âge d'or venait de s'achever. Devant, s'ouvrait doucement une nouvelle ère, des heures sombres pour l'humanité. Tout ce que Luoji savait, c'était qu'il était retenu dans une chambre située dans un sous-sol très profond. Dans l'ascenseur qui l'avait amené ici, un vieil appareil rare de nos jours, avec un levier à actionner manuellement, il s'était senti descendre sans fin, et le vieux mécanisme de l'ascenseur avait confirmé son impression. Il s'était arrêté au -10. Un souterrain de 10 étages. Il étudiait encore une fois la pièce. Un lit à une place, quelques objets d'usage courant, ainsi qu'un bureau ancien en bois. L'endroit faisait davantage penser à la salle de permanence d'un gardien de nuit qu'à une cellule de prison. De toute évidence, il y avait longtemps que personne n'était venu ici et, même si les draps étaient propres, le reste de la pièce était couvert de poussière et empestait une moisissure humide. La porte de la chambre s'ouvrit. Un homme râblé d'âge moyen entra. Il adressa un signe de tête à Luoji. Son visage laissait transparaître une fatigue manifeste. « Professeur Luo, je viens vous tenir compagnie. Mais comme vous venez juste d'entrer ici, je présume que vous n'avez pas encore eu le temps de devenir fou de solitude. » Entrer ici. Le verbe sonnait faux à l'oreille de Luoji. Pourquoi n'était-ce pas simplement avoir été envoyé ici? Son cœur s'emballa et il tenait la preuve de ce qu'il avait deviné plus tôt. Quand bien même ceux qui l'avaient conduit ici s'étaient montrés polis, il avait tout de même été mis au fer.
Vous êtes flic?
Je l'ai été, oui. Shi Xiang, à votre service.
Son visiteur inclina la tête, puis s'assit au bord du lit et sortit un paquet de cigarettes. Luoji se fit la réflexion que dans cet endroit clos, la fumée ne pourrait pas se dissiper, mais il n'avait pas le courage de le faire remarquer. L'individu sembla lire dans ses pensées car il regarda autour de lui et lâcha
« Il doit bien y avoir un ventilateur quelque part !»
Et tout en parlant, il tira sur un cordon près de la porte. Un bourdonnement commença à se faire entendre, venu d'on ne sait où. Ce genre d'interrupteur à tirette n'était plus très courant. Luoji remarqua encore un vieux téléphone à cadran rouge accroché dans un coin du mur, qui était visiblement hors service depuis des lustres, à en juger par la couche de poussière dont il était couvert. Shi Xiang tendit une cigarette à Luoji. Ce dernier hésita un instant, puis accepta. Après avoir chacun allumé la sienne, Shi Xiang reprit.
« Il est encore tôt. Que diriez-vous de causer un peu ?»«
Posez-moi vos questions, » lâcha Luoji, la tête basse, en crachant une bouffée de fumée.
« Quelle question ?» demanda Shi Xiang en regardant Luoji avec étonnement.
Luoji sauta de son lit et jeta la cigarette dont il n'avait fumé qu'une seule bouffée.
« Comment pouvez-vous un seul instant me considérer comme suspect ? Enfin, vous le savez comme moi, c'était un accident de la route. Ce sont deux voitures qui se sont télescopées, et c'est celle de derrière qui lui est rentrée dedans en voulant les esquiver, c'est pourtant évident. »
À bout de mots et de patience, Luoji laissa retomber ses bras. Shi Xiang leva la tête et l'examina. Ses deux yeux ensommeillés s'illuminèrent brusquement, comme si derrière ce regard souriant se cachait un invisible instinct de meurtrier, émérite et acéré. Luoji en eut un frisson.
Je ne vous ai pas parlé de ça. C'est vous qui l'évoquez le premier. Mes supérieurs ne m'ont pas donné l'autorisation d'en dire davantage, et je n'en sais de toute façon pas beaucoup plus non plus. Et dire que je m'inquiétais tout à l'heure que nous n'aurions aucun sujet de discussion. Venez, asseyez-vous.
Luoji n'en fit rien et se dressa de tout son être devant Shi Xiang.
Je ne la connaissais que depuis une semaine. Je l'avais rencontrée dans un bar près du campus et, juste avant l'accident, je n'arrivais même pas à me souvenir de son prénom. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que l'enquête vous entraîne dans ma direction ?
Vous ne vous rappeliez même plus son prénom ? Je comprends mieux que vous n'ayez pas trop réagi quand elle est morte. Ça me rappelle un autre génie dans votre genre. Ma foi, professeur Luo, on peut dire que vous avez une vie plutôt trépidante. Une nouvelle fille tous les 4 matins.
Oh, et puis attention, ce n'est pas de la mauvaise qualité. C'est illégal ?
Bien sûr que non. Je suis admiratif, c'est tout.
Dans mon boulot, j'ai un principe. ne jamais porter de jugement moral. Les gars avec qui j'ai affaire, eux, ce sont des durs. Vous m'imaginez leur faire la morale ? Regardez ce que vous avez fait. Vous avez pensé à la société, à vos parents. Ça ne vaut quand même pas une bonne baffe. Eh bien, parfait, officier Shi. Je vais vous parler d'elle. Mais croyez-vous vraiment que je l'ai tuée ? Vous voyez, c'est encore vous qui mettez le sujet sur la table. Et vous sous-entendez même maintenant que vous auriez pu la tuer. Détendez-vous, on ne fait que papoter. Qu'est-ce qui presse ? Vous êtes un novice, ça se voit.
Luoji fixa Shi Xiang. Pendant un moment, on n'entendit plus que le vagissement du ventilateur et, soudain, Luoji partit d'un rire nerveux avant de sortir son propre paquet de cigarettes.
« Écoutez-moi, vieux frère, » dit Shi Xiang, « vous permettez que je vous appelle comme ça. C'est le destin qui nous a réunis. Vous savez, j'ai bossé sur 16 affaires qui se sont terminées sur des peines de mort. » Et j'ai moi-même escorté 9 condamnés jusqu'à l'exécution de la sentence. »
Luoji lui tendit une cigarette.
« Je ne vous laisserai pas m'escorter. Auriez-vous maintenant l'obligeance de contacter mon avocat ?»«
Voilà, vieux frère !» s'exclama Shi Xiang en tapant avec enthousiasme sur son épaule. « J'aime ça, les gars qui savent ce qu'ils veulent !»
Il tira sur l'épaule et approcha Luoji de lui. Puis il lui confia dans un nuage de cigarettes.
Dans une vie, on peut rencontrer des tas de trucs, mais ce qui vous tombe dessus, croyez-moi, je suis là pour vous aider. Vous connaissez la blague ? Dans le couloir de la mort, un condamné se plaint qu'il va pleuvoir. Le bourreau lui demande « De quoi tu te plains ? C'est nous qui allons rentrer sous l'averse. » Ça vous donne un petit aperçu de tout ce qui va suivre. Bon, il reste encore un moment avant qu'on se mette en route, profitez-en pour dormir un peu.
En route ? Demanda Luoji en levant une nouvelle fois les yeux vers Shi Xiang.
On frappa à la porte. Un jeune homme au regard perçant entra. Il jeta une valise sur le sol.
« Commissaire Shi, le départ a été avancé. Nous partons maintenant. »
Chang Baiyei poussa délicatement la porte de la chambre d'hôpital de son père. À moitié allongé sur le lit, le dos contre l'oreiller, il paraissait aller mieux que ce qu'il avait imaginé. Les rayons dorés du soleil couchant qui perçaient à travers la fenêtre rendaient un peu de couleur à son visage et lui donnaient moins l'air d'un homme aux portes de la mort. Chang Baiyei accrocha son képi sur le porte-manteau de l'entrée, puis il vint s'asseoir au bord du lit de son père. Il ne lui demanda pas comment il se sentait, car celui-ci aurait répondu avec une sincérité de militaire et il ne voulait pas d'une réponse sincère. « Père, j'ai intégré l'armée spatiale. » Le père hocha la tête, mais ne dit rien. Ces silences entre père et fils transmettaient plus d'informations que les mots. Depuis son plus jeune âge, son père l'avait éduqué par le silence et non le langage. Les mots n'étaient entre eux que des ponctuations entre chaque silence, et c'était les silences de son père qui avaient fait de Chang Baiyei l'homme qu'il était aujourd'hui.
« Comme vous le pensiez, père, il s'appuie sur la marine pour bâtir les fondations de la future flotte spatiale. » Il considère qu'une guerre spatiale sera plus proche, tant en termes théoriques qu'opérationnels, qu'une guerre maritime.
C'est exact.
Le père hocha une nouvelle fois la tête.
Que dois-je faire, père ?
Père, enfin je vous pose cette question. Cette phrase que j'ai ruminée toute la nuit sans parvenir à trouver le sommeil et que j'ai enfin le courage de prononcer. À l'instant où je vous ai vu, père, j'ai hésité encore, car je savais que c'était la question qui vous décevrait le plus. Je me souviens, après l'obtention de ma maîtrise, lorsque je suis entré comme élève officier dans la marine, vous m'aviez dit « Baiyei, il te reste une si longue route à parcourir. Si je te dis cela, c'est parce que je peux encore facilement voir en toi, et si tu me laisses trop facilement voir en toi, cela signifie que tes pensées sont encore trop simples, qu'elles ne sont pas assez subtiles. » Le jour où je ne parviendrai plus à lire dans ton esprit et où tu pourras facilement comprendre le mien, ce jour-là et ce jour-là seulement, je pourrai dire que tu as grandi. Et j'ai donc grandi, comme vous me l'avez demandé, et il ne vous a plus été aussi facile de comprendre votre fils. Je ne vous croirais pas si vous me disiez que cela ne vous a causé aucune tristesse, Mais votre fils a en effet fini par devenir l'homme que vous aviez espéré. Un homme n'ayant rien d'aimable, mais capable de réussir dans ce domaine complexe et dangereux qu'est la marine. Et voici à présent que votre fils vous pose cette question, et c'est sans l'ombre d'un doute le signe que ces 30 années passées à m'éduquer échouent au moment le plus critique. Mais père, répondez-moi tout de même. Votre fils n'est pas aussi fort que vous le voudriez. Seulement cette fois, père, je vous en prie. Pense plus, lâcha le père. Bien, père, vous m'avez répondu. Vous m'en avez dit beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup. 20 000 mots ne sauraient suffire à exprimer le contenu des deux que vous venez de prononcer. Croyez, votre fils, mon cœur a entendu vos paroles, mais je vous en supplie, dites-m'en encore, car elles comptent plus que tout. Et après avoir pensé, demanda Chang Bei-yei en s'agrippant au drap. Ses paumes et son front étaient trempés de sueur. Père, pardonnez-moi. Si ma première question a dû vous décevoir, celle-ci doit me faire redevenir un enfant à vos yeux. Bei-yei, je peux simplement te dire ceci. Avant toute chose, pense plus et plus loin, répondit le père. Père, merci. C'était très clair. Mon cœur a compris ce que vous lui disiez. Les mains de Chang Bei-yei relâchèrent les draps et attrapèrent la main décharnée de son père. « Père, je ne partirai plus en mer. Je reviendrai vous voir souvent. » Un sourire se dessina sur le visage du vieil homme, mais il secoua la tête.
« Je n'ai besoin de rien ici. Concentre-toi sur ton travail. »
Ils parlèrent encore un moment, tout d'abord de la famille, puis de la constitution des forces spatiales. Le père exprima un grand nombre de considérations et de recommandations pour le futur travail de Chang Bei-yei. Ils imaginèrent ensemble la forme et le volume des futurs vaisseaux de guerre, décrivirent avec une excitation débordante l'armement qui serait utilisé lors de la guerre dans l'espace, et s'interrogèrent même sur l'applicabilité de la théorie de suprématie maritime d'Alfred Mahan aux batailles spatiales. Mais toutes les paroles qu'ils échangèrent étaient déjà insignifiantes. C'était simplement comme si Chang Bei-yei accompagnait son père dans une promenade de mots. Tout ce qui avait du sens était concentré dans les 3 phrases que tous deux avaient échangées de cœur à cœur. « Pense plus » et après avoir pensé, « Bei-yei, je peux simplement te dire ceci. Avant toute chose, pense plus et plus loin. » Chang Bei-yei prit congé de son père. Au moment de sortir de la chambre, il observa encore un instant à travers la vitre enchâssée dans la porte son père, abandonné par la lueur du soleil, enveloppé par la pénombre. Ses yeux transpercèrent l'obscurité et remarquèrent les dernières lueurs du crépuscule projetées sur le mur. La lumière ne tarderait pas à s'évanouir, mais c'était à cet instant précis qu'elle était la plus belle. Les derniers rayons du jour illuminèrent aussi les vagues déferlantes d'un océan en furie. Des colonnes de lumière lardèrent les nuages tumultueux de l'ouest et tachèrent d'or la surface de l'eau, tels des pétales de fleurs tombées du royaume des cieux. Par-delà ces pétales, des nuages noirs dessinaient un monde aussi obscur que la nuit, tandis que se levait une tempête, rideau divin suspendu entre ciel et mer. Il ne resta bientôt plus comme source de lumière que de brefs éclairs foudroyant l'écume neigeuse crachée par les vagues. Au creux d'un de ces pétales d'or, un destroyer se retrouva bientôt à la crête d'une déferlante née dans les abysses et, dans un grondement terrible, sa proue se heurta à un mur de vagues qui souleva une écume si monumentale qu'elle absorba avidement les dernières rémanences de clarté vespérale, comme un gigantesque oiseau mythique déployant ses immenses ailes d'un or aveuglant. Chang Bei-yei ajusta son képi décoré de l'insigne de l'armée spatiale chinoise. Il murmura au fond de lui, « Père, nous pensons la même chose. C'est une chance unique. Je ne vous couvrirai pas de gloire, mais vous pourrez partir en paix. »
Professeur Luo, veuillez enfiler ceci, je vous prie.
dit le jeune homme qui venait d'entrer dans la chambre. Il s'accroupit et ouvrit la valise qu'il avait apportée. Même si l'homme paraissait courtois, Luoji ne s'en sentit pas moins mal à l'aise. Il avait comme l'impression d'avoir avalé une mouche. Mais quand il vit le vêtement sorti du sac, il comprit qu'il ne s'agissait pas d'un uniforme de détenu, mais d'une veste marron très ordinaire. Il s'en saisit et l'examina. Elle était faite dans un matériau très épais. Shi Xiang et le jeune homme enfilèrent des vestes similaires, mais de couleurs différentes.
« Mettez-la, vous verrez, on peut respirer et elle est assez agréable. Ce n'est pas comme les vieux trucs qu'on avait dans le temps et dans lesquels on crevait de chaud, » dit Shi Xiang.
« C'est un gilet pare-balles, » précisa le jeune homme. « Qui pourrait bien vouloir me tirer dessus ?» se demanda Luoji tout en se changeant. Les trois hommes sortirent de la chambre et longèrent un long corridor qui menait à un ascenseur. Le plafond au-dessus de leur tête était parcouru de canalisations de ventilation en tôle et ils passèrent devant plusieurs portes épaisses et étanches. Luoji remarqua un slogan indistinct inscrit sur un mur bariolé. Il ne pouvait en déchiffrer qu'une partie, mais il le connaissait dans sa version intégrale. « Creuser des tunnels, stocker les céréales, ne jamais prétendre à l'hégémonie », selon la célèbre phrase prononcée par Mao Tse-tung en 1972. « Nous sommes dans un abri antiaérien, n'est-ce pas ?» demanda Luoji à Shi Xiang.
« Ouais, et pas n'importe lequel, c'est un abri anti-atomique. Il est maintenant à l'abandon, mais à l'époque, il n'était pas accessible aux premiers venus. Alors nous sommes à Xishan ?»
Luoji connaissait la légende. Cependant, ni Shi Xiang ni le jeune homme ne lui fournirent de réponse. Ils pénétrèrent dans le vieil ascenseur qui se mit instantanément à monter dans un grincement. L'homme chargé de faire fonctionner l'appareil était un membre de la police armée du peuple et portait une mitraillette sur le dos. C'était visiblement la première fois que cette tâche lui était dévolue, car il dut s'y reprendre à plusieurs fois avant que l'ascenseur ne s'arrête au niveau moins un. Une fois sorti de l'ascenseur, Luoji découvrit qu'ils avaient à présent rejoint un hall très vaste mais bas de plafond, un peu comme un parking souterrain. Celui-ci était rempli de véhicules de toutes sortes dont le moteur de certains tournait déjà, gorgeant l'air d'une odeur irritante. De nombreux individus se tenaient debout ou circulaient entre les rangées de voitures. L'espace était faiblement éclairé, une simple lampe dans un coin du hall, si bien que les hommes ne se révélaient que sous l'apparence d'ombre noire. Ce n'est qu'en passant devant les phares des véhicules que Luoji put voir que tous les membres à leur bord étaient des soldats de la police armée du peuple. Il remarqua aussi quelques officiers qui criaient dans leur talkie-walkie, tentant tant bien que mal de couvrir le bourdonnement des moteurs. Leur voix paraissait nerveuse. Shi Xiang entraîna Luoji entre deux rangées de voitures. Ils étaient suivis par le jeune homme. Les phares arrière rouges des voitures et les lumières artificielles du hall s'infiltraient dans chaque interstice entre les véhicules qu'ils croisaient et se reflétaient sur le corps de Shi Xiang, ce qui donnait l'impression qu'un kaléidoscope de couleurs glissait le long de sa silhouette. Luoji repensa étrangement à ce bar tamisé où il avait fait la connaissance de la jeune fille. Shi Xiang entraîna Luoji jusqu'à une voiture. Il ouvrit la porte et le fit monter à l'intérieur. L'habitacle était très spacieux, mais les fenêtres étaient anormalement étroites. Depuis leurs extrémités, on pouvait distinguer l'épaisseur du châssis du véhicule. C'était un véhicule blindé aux vitres teintées, peut-être elle-même résistante aux balles. La porte étant encore entr'ouverte, Luoji put entendre le dialogue entre Shi Xiang et le jeune homme qui les avait escortés. « Commissaire Shi, ils viennent de téléphoner. Ils ont vérifié le parcours. Les sentinelles sont à leur poste. »
« La route est trop compliquée. Les repérages qui ont été faits ne peuvent être que grossiers. On ne peut être sûr de rien. Quant aux positions des sentinelles, ce que j'en dis, c'est qu'il faut essayer de se mettre à leur place. Si tu étais eux, où est-ce que tu te planquerais ? Il aurait fallu consulter davantage les experts. » Oh, et comment va se dérouler le transfert ?
Ils n'ont rien dit.
Shi Xiang éleva la voix. Les demeurés ! Même une étape aussi importante, ils ne l'ont pas anticipée.
Commissaire Shi, nous devons faire comme il nous a été demandé et suivre le parcours tout du long.
On pourra bien le suivre toute notre vie, il y aura un moment où il faudra procéder au transfert. Et on devra bien définir les responsabilités de chacun. Tout doit être parfaitement carré. Tout ce qui se passe avant, c'est de notre responsabilité. Après, c'est la leur.
Ils n'ont rien dit.
Le jeune homme paraissait désorienté.
Hey, Cheng, Je sais que tu as un foutu complexe d'infériorité depuis que Chang Weizi est monté en grade. Aujourd'hui, tous les officiers subalternes nous regardent de haut, alors qu'avant nous étions sous ses ordres directs. Mais on doit avoir au moins un peu de considération pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'ils valent? Est-ce que quelqu'un leur a déjà tiré dessus? Est-ce qu'ils ont déjà ouvert le feu? Tu as bien vu comment cette bande de galonnés s'est débrouillée lors de la dernière opération? Ils ont sorti tous leurs gadgets. Ils ont même fait appel à des SDCA. Mais à la fin, c'est quand même grâce à nous qu'ils ont localisé le lieu de la réunion. C'est nous qui avons repris possession du lieu. Ça nous a apporté un peu de crédit. Hey, Cheng, j'en ai gaspillé de la salive à les convaincre de te faire embaucher ici, mais je me demande maintenant si je ne t'envoie pas au casse-pipe. Commissaire, ne dites pas ça. C'est une époque de troubles, une époque de troubles, tu piges? Les gens ont moins le sens de l'honneur que dans le temps. Aujourd'hui, tout le monde se renvoie son infortune, on doit rester à l'affût. Si je te raconte tout ça, c'est parce que je ne sais pas trop combien de temps encore je pourrais tenir le coup. Après ça, j'ai bien peur que tout ça te retombe dessus. Commissaire Shi, vous devriez songer à votre maladie. La hiérarchie n'a-t-elle pas prévu de vous mettre en hibernation? J'ai d'abord des tas de choses à régler. La famille, le boulot, et puis à vous voir comme ça et à de quoi se faire de la bile. Ne vous en faites pas. Votre maladie ne peut plus attendre. Ce matin, je vous ai encore vu saigner des gencives. Ce n'est rien. Je suis un gars chanceux, tu le sais. Les trois fois où on m'a tiré dessus dans ma carrière, le flingue s'est retourné contre les tireurs. Une rangée de voitures à l'extrémité du grand hall commença à se mettre en route en file indienne. Shi Xiang entra dans la voiture et referma la porte. Elle ne démarra que lorsque les véhicules voisins furent partis. Shi Xiang ferma les rideaux des deux côtés. À l'intérieur, une cloison opaque séparait l'habitacle du conducteur de la banquette arrière. Luo Ji ne voyait plus rien de ce qui pouvait se passer à l'extérieur. Le talkie-walkie de Shi Xiang grésillait sans cesse, mais Luo Ji n'entendait pas bien ce qu'il disait. Shi Xiang y répondait occasionnellement par une phrase simple. Peu après le départ de la voiture, Luo Ji dit à Shi Xiang, « Les choses sont plus complexes que vous ne me l'avez dit ?»«
À qui le dites-vous ? Tout est complexe maintenant !» répondit-il sans conviction, son attention toujours concentrée sur le talkie.
Tous deux n'échangèrent plus rien de tout le trajet. Le voyage se déroula sans encombre, la voiture ne décéléra pas une seule fois et le chauffeur conduisit pendant environ une heure avant de marquer un arrêt. Après être descendu, Shi Xiang indiqua à Luo Ji de rester dans la voiture, puis il referma la porte. Luo Ji entendit un vrombissement qui semblait provenir du toit de la voiture. Quelques minutes plus tard, Shi Xiang rouvrit la porte et l'invita à descendre. Luo Ji réalisa immédiatement qu'il se trouvait dans un aérodrome. Le bruit qu'il venait d'entendre devint assourdissant. Il leva la tête et vit deux hélicoptères qui faisaient du surplace dans les airs, leur train avant orienté dans des directions opposées, comme s'ils surveillaient cette zone déserte. Devant lui se trouvait un avion de grande taille, qui paraissait être un avion de ligne, mais il n'y voyait l'insigne d'aucune compagnie aérienne. La porte de la voiture donnait directement sur la passerelle d'embarquement. Shi Xiang et Luo Ji l'empruntèrent et montèrent dans l'appareil. Juste avant d'entrer dans la cabine, Luo Ji se retourna pour jeter un coup d'œil en arrière. Il remarqua un escadron d'avions de chasse stationné sur le tarmac. Il acquit la certitude que ce n'était pas un aéroport civil. Il dirigea son regard plus près de lui et nota que la dizaine de voitures de leur convoi ainsi que les soldats avaient formé un grand cercle autour de l'avion. Le soleil couchant projetait une longue silhouette sur la piste de décollage comme un titanesque point d'exclamation. Luo Ji et Shi Xiang entrèrent dans la cabine. Ils furent accueillis par trois hommes vêtus d'un costume noir qui les conduisirent dans le compartiment avant. Aucun autre passager ne se trouvait dans l'appareil, mais il avait l'apparence d'un avion de tourisme ordinaire avec ses quatre rangées de sièges vides. Cependant, après avoir gagné la cabine arrière, Luo Ji remarqua un bureau assez spacieux, ainsi qu'un vestibule qui donnait sur une chambre que Luo Ji put apercevoir à travers la fente de la porte. La pièce était aménagée de façon très commune, mais elle était propre et bien rangée. Sans les ceintures de sécurité vertes dont étaient équipés le canapé et les fauteuils, on ne se serait pas cru dans un avion. Luo Ji savait qu'il n'existait pas beaucoup d'avions de ce type dans tout le pays.
Deux des trois individus qui les avaient accueillis rejoignirent la queue de l'appareil, laissant aux plus jeunes le soin de donner les instructions. « Asseyez-vous où vous le souhaitez, mais surtout attachez bien votre ceinture. C'est très important, pas seulement au décollage et à l'atterrissage. Il vous faudra garder votre ceinture attachée tout au long du vol. Si vous souhaitez dormir, souvenez-vous d'attacher la ceinture de sécurité du sac de couchage. Ne laissez pas d'objet qui ne serait pas fixé à l'extérieur. Évitez autant que possible de quitter votre fauteuil ou votre lit. Si vous avez besoin de vous lever, informez-en d'abord le chef de cabine. Ceci est un interrupteur de microphone, il y en a aussi sur tous les fauteuils et en tête de lit. Parlez après avoir pressé le bouton. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'utiliser pour nous appeler. »
Luoji jeta un coup d'œil perplexe à Shixiang qui ajouta « L'avion va peut-être exécuter des manœuvres acrobatiques. »
L'homme hocha la tête. « En effet, utilisez le microphone en cas de besoin. Appelez-moi Xiao Chang, je vous apporterai le dîner après le décollage. »
Xiao Chang partit. Luoji et Shixiang s'assirent sur le canapé et attachèrent leurs ceintures respectives. Luoji regarda tout autour de lui. En dehors du hublot rond et des cloisons convexes, tout était parfaitement banal et familier, si bien qu'il était pour le moins déconcertant de se retrouver ainsi attaché dans un bureau ordinaire. Mais très vite, le ronflement des moteurs et une légère vibration leur rappelèrent qu'ils se trouvaient bien à bord d'un avion. L'appareil fila sur la piste de décollage et, au bout de quelques minutes, le bruit des moteurs changea et ils se retrouvèrent enfoncés dans leur canapé. Puis les vibrations de la surface disparurent et le plancher du bureau obliqua. Tandis que l'avion s'élevait, le soleil qui s'était déjà couché derrière l'horizon pénétrait à travers le hublot. 10 minutes plus tôt, le même soleil avait dardé son dernier rayon à l'intérieur de la chambre d'hôpital du père de Chang Beiyei.